Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre messagers de joie. Nous regardons depuis quelques semaines ce chant corinthien. Si vous voulez tourner les pages de l'Écriture, au chapitre 7, de la première aux Corinthiens. Et je vais, en quelques minutes, essayer de nous reconnecter un petit peu. Là où on est resté. Nous avons commencé notre méditation sur cette épître aux Corinthiens par une prière. Cette prière disait « Père, donne-nous ta grâce ». Pour que nous puissions prendre conscience de ta présence dans notre famille et pour obéir à tes commandements afin de fortifier nos liens. Dieu est notre famille. Tel était le premier message sur cette première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 10 à 12, où nous étions arrivés à trois conclusions. La première conclusion que nous avions trouvée, c'était que devenir chrétien ne nous entraîne pas à changer nos relations avec notre conjoint, à l'améliorer, à partir du moment où c'est notre mari. Devenir chrétien ne nous amène pas à nous séparer de notre conjoint, parce que c'était la question qui était posée à Paul. Et devenir chrétien amène une bénédiction sur notre famille. Nous sommes source, ou nous devrions être source de bénédiction. Et puis, le deuxième message, dans les versets 18 et 19, où vous savez, on avait commencé à manger un hamburger, je vous rappelle, à 4 étages, et donc s'intitulait « Attaché à notre appel ». Et on avait vu les plusieurs fois où Paul, je crois les 9 fois, où Paul utilisait ce mot « appel ». Et où il nous rappelait que nous devions rester fermes à cet appel, que l'appel venait de Dieu, que c'était lui qui était le principe de notre vie. Et on avait vu aussi que, qu'on soit de quelque couleur que ce soit, l'important c'était d'obéir à Jésus-Christ et de ne pas changer, vouloir changer dans ce sens. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre sujet. Nous avions terminé avec cette prière, voilà, qui disait « Dieu, viens avec moi aujourd'hui et garde-moi la conscience de ta présence. Encourage mon cœur lorsque j'ai tendance à me décourager. Rends-moi humble quand j'ai tendance à me vanter. Ô Dieu, donne-moi la grâce d'obéir à tes commandements. » qui, je le sais, sont tous résumés en ceci, aime ton prochain comme toi-même. Et vous vous rappelez, on avait parlé de ces tensions qui peuvent naître du fait que nous ne sommes pas de même pays, que nous ne sommes pas de même culture, et que Dieu dit, béni soit celui qui est noir, béni soit celui qui est jaune, béni celui qui est rouge, béni celui qui est blanc, parce que Dieu les aime. Vous vous souvenez un petit peu? Alors on va regarder maintenant dans la première aux Corinthiens, au verset 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi, ou d'autres versions ont un esclave, du Seigneur. De même, l'homme libre qui est appelé, voilà, est un esclave en Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il a été, lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. C'est un principe difficile à accepter. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que chacun frère Ça, c'est le verset 21, le verset 24, que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il a été appelé. Si tu peux devenir libre, profites-en. L'intéressant, c'est de se rappeler que, ou de noter, que 8 ans, 2/3 étaient des esclaves. Donc quand Paul s'adresse aux esclaves, il sait à qui il s'adresse. Et là, il n'est pas en train de dire, ah ben s'il y a quelques-uns parmi vous, c'est 2/3 la population. Ne te fais pas de soucis au sujet de ta condition d'esclave, mais au lieu de cela, utilise-la. On veut toujours être quelqu'un d'autre. On pense que parce que nous le valons mieux que ça, tu le vaux bien, n'est-ce pas ? Esclave, c'est avilissant. Employé, c'est avilissant. Être au service de quelqu'un d'autre, c'est avilissant. Pense-t-on. Mais là, Paul est en train de dire, utilisez la condition dans laquelle vous êtes pour glorifier Dieu, pour servir Dieu. Si nous ne sommes pas capables, frères et sœurs, de servir Dieu là où il nous a appelés, alors on croit qu'on va pouvoir être capable de servir dans une autre culture, dans un autre pays, bien plus loin, où personne ne me connaît. Là, j'aurai une chance parce que personne ne me connaîtra. J'ai aucune chance. Si je ne suis pas capable de servir, pourquoi est-ce que Jésus nous a laissé ce chapitre 1, verset 8 du livre des Actes, en disant « Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans votre ville, et puis en Galilée, puis en Samarie, puis aux extrémités du monde. » On doit d'abord être un témoin là où on est, et là Paul n'invente rien, il reprend juste l'idée que Jésus a laissée. Utilisez votre position, votre emploi, votre situation de vie pour influencer les autres. Paul ne dit pas qu'il est interdit de devenir libre. Paul dit simplement, il dit, ne vous en tracassez pas trop. C'est pas ça le point principal maintenant que vous êtes chrétien. Le point principal maintenant que vous êtes chrétien, c'est de vivre votre vie de Christ là où vous êtes, afin que les autres le voient. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de situation. Bien sûr, il y a des choses qui sont déshonorantes. Hein. Là, je ne parle pas de la prostitution ou des choses qui seront avilissantes. Mais je parle de tous ceux qui ont un métier, quel qu'il soit. Dieu nous veut là. Et Dieu veut nous permettre aussi d'être des témoins là. On ne peut pas être témoin à votre place dans ces lieux-là. C'est vous qui êtes devenus des lampes. Ne te fais pas de soucis au sujet de ta condition. C'est en fait ce que Paul est en train de leur dire. Lorsque vous êtes appelés dans la communion avec Christ, vos priorités changent radicalement et deviennent centrées sur Christ. À tel point que si vous êtes esclave, cela a primé sa conversion. Il a dit, moi quand je suis devenu chrétien, j'ai fait un 360 degrés. Il n'y en a que 180 à faire. Quand on fait demi-tour dans la vie, quand on reçoit Jésus-Christ, alors mes amis, on fait demi-tour sur les mauvaises habitudes, sur tout ce qui était mauvais en nous. Dieu a payé le prix. Et Dieu fait de nous, là, saisi, c'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Il vous saisit là, vous êtes devenus ses lumières. Vous êtes devenus une lampe. Il y avait plein de ténèbres et d'un seul coup, vous avez allumé la lumière. Non pas pour qu'on vous regarde, vous, mais pour qu'on regarde Jésus-Christ. C'est lui qui m'a changé. Dis donc, t'as drôlement changé. Bah oui, c'est Christ qui change. Quelles opportunités. Les Corinthiens se tournent. On aimerait bien devenir chef à la place. On aimerait bien prendre sa place. Et pour voir qu'est-ce que ça fait. Mais là, Paul leur dit, non, ne vous mettez pas en souci, ne mettez pas votre énergie là-dedans. As-tu été appelé en tant qu'esclave ? Ne t'en inquiète pas. Notre travail ou votre travail, parfois, vous semble si peu valorisant. Ah, si j'avais un autre métier, un autre emploi. Les jeunes se préoccupent, hein. Notre petite, je peux dire, elle n'est pas là. nous pose souvent la question quand elle pense à un métier, elle dit « ça paye bien ?»« Ça paye bien ?» Mais ce n'est pas ça qui compte, n'est-ce pas ? C'est que tu sois heureuse dans ce que tu fais. C'est que ça soit le métier auquel Dieu t'a appelé. Il y en a d'autres, peut-être certains d'entre vous n'ont même pas cherché à savoir si ça payait bien, mais ont accepté un métier. Parce que c'est important d'avoir quelque chose à faire. Et Dieu dit, même si vous pensez que ce n'est pas valorisant, vous, vous avez une valeur énorme. Et votre métier peut être valorisé par vous, parce que vous lui donnez. Ne vous inquiétez pas. Paul aurait pu donner la même raison théologique sur ce point, comme il l'a fait dans le verset 19. Il aurait pu dire, être un esclave n'est rien, être un homme libre n'est rien. Ce qui compte, c'est l'aube des commandements. Et c'est pas ça qui compte, c'est obéir à Dieu. Et si on avec nous, ou d'un seul coup, Dieu va changer les choses, va changer notre environnement. La raison pour laquelle une personne ne doit pas s'inquiéter, même si elle est esclave, est la suivante, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Il est libre. Il n'est pas esclave, il est libre. On essaye de nous enchaîner, on essaye de nous mettre en cage. Mais nous sommes libres. Et cette liberté-là, mes amis, personne ne peut nous l'enlever. Personne. Dans acte 22, il y a, c'est acte 22 ou acte 26. J'ai peut-être une bêtise, je vais me faire corriger après par le chef. Paul a été flagellé. On l'a arrêté, on a dit qu'il était en train de révolutionner la ville, d'embêter la ville. À cause de lui, les gens étaient en train de perdre de l'argent parce que tous ceux qui faisaient de l'argent avec des bêtises, étant donné que les gens devenaient chrétiens, ils ne le faisaient plus. Alors, on l'a flagellé, publiquement. Et la flagellation, mes amis, c'était pas une fessée, hein. C'était pas le martinet, hein. Et on l'a mis en prison. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on le met en prison, « Seigneur, je te loue que je suis en prison !» Je sais pas si on aurait eu vraiment... « Seigneur, tu m'as oublié ou quoi, là ? Mais pourquoi moi ? Mais j'ai pas mérité ça !» C'est ce qu'on dit, hein ? Non ? Quand il nous arrive un accident, « Eh, Seigneur, tu sais qu'il y a quand même 600 000 chrétiens en France. Hein ? T'es pas obligé de... Vigneux-sur-Seine, c'est bien, mais enfin, t'es Brunois, il y a des chrétiens. Évry, il y en a. Hein. Tu distribues aussi, là-bas. On lui demande des comptes à Dieu. Hein. Et là, Paul, il est en prison, il loue Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de témoigner que toutes circonstances, Dieu les contrôle. Toutes circonstances, les mauvaises et les bonnes. Non ? Ne te préoccupe pas, libre, tu es libre en Christ. Tu es libre en Christ. Tu es un affranchi. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Je me Dieu, quel que soit l'endroit où il m'appelle. Ah Seigneur, je veux bien te suivre. Là, ça chauffe bien. Ça serait bien. Enfin, où tu veux, hein. Enfin, tu me préviens. Car l'homme libre est un esclave de Christ. Nous sommes libres, libérés en Christ. J'ai essayé d'expliquer ça aux enfants l'autre jour, hein. On m'a dit que c'était pas très bien compris, donc je vais leur refaire le message dans 15 jours, là. Pour leur réexpliquer ce que ça voulait dire, le filet. Pourquoi le diable nous garde dans un filet? Et comment Dieu lui enlève le filet? Quand il nous appelle, il n'y a plus de retenue, mes amis. Le diable essaye de nous démolir, le diable essaye de nous faire douter. Nous dire, oh, t'as vu le boulot que t'as quand même, c'est horrible, hein. Putain, vu le salaire que t'as, quelle misère. Jésus pleure quand il voit ta feuille de salaire. Hein. Et Jésus pleura. Hein. Vous avez ça dans mon garage. Hein. J'ai pas réussi à leur faire enlever. Hein. J'aurais fait enlever les radios cochonnes, là, mais pas le papier. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. L'évangile est un antidote contre les emplois difficiles. Un antidote contre l'orgueil dans les emplois haut placés. Il regarde l'esclave qui peut se sentir désespéré et lui dit, En Christ, tu es un homme libre. Vous avez été racheté à un prix, élevé en allu, exalté. On commence à comprendre en devenant un petit peu plus âgé dans la foi chrétienne que ça a coûté tellement cher à Jésus. L'œil est inutile. Paul dit aux Corinthiens hein, que celui qui se glorifie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. L'évangile, un antidote contre le aussi, contre la démoralisation. Vous avez été racheté à un prix élevé. Réjouissez-vous dans le Seigneur, mettez votre espérance en lui et vous serez plus libre. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que nous, dans les pays libres, nous sommes tellement esclaves. Non ? Esclaves du matérialisme. Esclaves de notre télévision. Esclaves de notre téléphone. Esclaves de nos mauvaises habitudes. Non ? Et on se dit libre ! Mais on n'a pas le temps pour adorer Dieu. Je suis libre, mais je suis libre de ne pas l'adorer aussi. On n'a pas le temps pour parler à son voisin. On n'a pas le temps pour être enseigné. Mes amis, j'ai des témoignages là pendant 15 jours de gens qui viennent de pays tellement fermés et qui passent des heures dans la méditation, des heures à prier, des heures à être enseignés, parce qu'ils ont découvert en Christ quelque chose de tellement extraordinaire, la vraie vie. Et ils sont libres, ils sont plus libres que nous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, mettez votre espérance en lui, vous serez plus libres que tous les nobles. Et aux nobles, il dit, ne soyez pas orgueilleux, car en Christ, vous êtes des esclaves. La condition d'un dose de désespoir ni d'orgueil, mais la réponse qu'il peut dire, c'est je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Ne vous inquiétez de rien, dit la Bible. Ça ne veut pas dire être insouciant, hein. Ça ne veut pas dire je compte plus, je fais des chèques. Tout va bien. Seigneur pourvoira, hein. Il y a une secte qui a fait ça en Suisse. L'Éternel pourvoira, ils sont allés acheter des Mercedes. Si, c'est vrai. Et ils ont fait des chèques, il n'y avait pas l'argent sur le compte. Bon, ils ont visité les géoles suisses. Et Dieu a pourvu, effectivement, un logement. Pour eux, voilà, une prison. Nourriture, lavage assuré. Quelqu'un est avocat, quelqu'un est médecin, quelqu'un est un grand patron qu'il ne se vante point. Paul fera cet enseignement dans Éphésiens chapitre 6. Quelqu'un a un boulot qui peut-être n'est pas glorifiant, pas de pitié, mais la joie de savoir que Dieu est glorifié dans notre vie. Que chacun frère, au verset 24, hein, il dit, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et l'Éternel le glorifiera. Est-ce que nous mettons tellement à profit la situation où nous sommes pour que les autres viennent à Christ? Ou est-ce que finalement nous avons l'air tellement misérables? Dieu va me donner autre chose, j'en suis sûr. Mais en attendant cette autre chose, je ne fais plus rien. En attendant cette autre chose, je ne témoigne plus. En attendant cette autre chose, je ne suis plus joyeux. Oui, Dieu peut nous donner autre chose. Mais quand il voudra, et selon ce qu'il voudra. Ce qui compte dans la vie et dans la vie éternelle, c'est de rester proche de Dieu, d'apprécier sa présence, même quand ça va mal. Je vous ai raconté cette histoire d'un monsieur qui était, dans une géole en Russie ou quelque chose comme ça, en prison là-bas. Et c'était un chrétien et il trouvait toujours tellement de mal à pouvoir lire sa Bible parce qu'il était dans une cellule où il y avait plein de gens. Alors un jour, on a demandé quelqu'un pour aller nettoyer les toilettes. Il a dit, moi je veux bien. Et les autres se sont moqués de lui. Ils ont dit, lui il va dans les toilettes, c'est bien bon pour toi qui es chrétien. Et un jour finalement quand il est sorti de prison, on lui a demandé, mais pourquoi t'as nettoyé les toilettes toutes ces années? Il dit, c'est le seul endroit où personne n'est venu et où je pouvais louer Dieu tranquillement. Est-ce qu'on aurait accepté d'aller nettoyer les toilettes pour avoir du temps seul avec notre Dieu? C'est pas glorifiant. Oh Dieu, c'est pas vraiment un endroit où tu devrais être. Mais ça, ou la salle où tout le monde est là et tout le monde se moque, il avait choisi, il avait compris que là, en fait, personne viendrait contrôler son travail. Que personne viendrait vérifier si c'était bien. Des fois, hein, on cherche des endroits tellement beaux, tellement grandioses. Que votre emploi. Au point où Paul leur dit, vous êtes obligés de changer. Vous ne devriez pas être amenés à quitter l'un ou l'autre par crainte, par désespoir, ni être attirés par la richesse, ni d'être attirés par l'orgueil. Vous devriez pouvoir dire dans votre situation, ne dépend pas de cela. Ma vie, c'est obéir à Dieu et apprécier sa présence. Ce qui est intéressant, souvent dans les chants, on réclame. On ne lit pas bien la Bible, il me semble. Receviez l'Esprit Saint. Il est avec vous pour l'instant. Il sera en vous. Et il fera sa demeure en vous. Paul s'adresse aux Corinthiens. Il dit à ces Corinthiens qui sont infidèles, à ces Corinthiens qui sont charnels, à ces Corinthiens qui se divisent, à ces Corinthiens qui vivent dans un péché terrible. Il leur dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Faites le ménage. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et plus loin, il leur dit, vous êtes le corps de Christ. On réclame quelque chose qu'on a. C'est parce qu'on ne comprend pas la présence de Dieu. Il est là. Si à chaque fois qu'on commençait à faire une bêtise, on s'arrêtait un instant, qu'on ait cette conscience de dire, Seigneur, ferme les yeux. Je vais en faire une. Mais Seigneur, il est là. Il nous accompagne dans la difficulté. Le psaume 40 dit qu'il est sur le lit du malade. Il est avec lui, il l'accompagne. Qu'il est avec nous quand tout va bien, mais il est aussi avec nous quand tout va mal. La volonté de Dieu qui nous est révélée, sa seule volonté, c'est que nous puissions le glorifier. 1 Thessaloniciens 4, 3 dit c'est notre sanctification. Notre processus de transformation. Romains 12 dit que vous soyez renouvelés par l'intelligence de Dieu. Mais pour cela, il faut décider, n'est-ce pas? On a un entraînement à faire. Une discipline de vie. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, fais de moi celui que tu veux ou celle que tu veux. C'est pas élimine mon voisin parce qu'il m'énerve. C'est pas, Seigneur, si le patron il peut avoir un arrêt cardiaque parce que il est pas gentil avec moi. C'est vrai que s'il a un arrêt cardiaque, la boîte risque de fermer. C'est pas nos réactions. Mais Dieu, il est dans notre vie. Si nous avons accepté Jésus-Christ, l'Esprit est en nous, mes amis. Et il est présent. Il est présent dans nos vies. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus. C'est lui qui nous apprend à comprendre, c'est lui qui nous apprend à discerner. Dieu est là. J'ai senti la présence de Dieu, mais il est là, tous les jours. Le problème, c'est qu'on oublie qu'il est là. C'est qu'on n'a pas conscience. C'est pour ça que cette prière, hein, on la refera tout à l'heure. Seigneur, rappelle-moi. Rappelle-moi que tu es présent. Rappelle-moi que tu ne m'oublies pas. On a besoin de le dire. Comme on a besoin de dire « je t'aime » à ceux qu'on aime. Hein. Tu ne le dis pas souvent « je t'aime hein. ». Mais tu le vois bien que je t'aime. Tu crois que je serais encore là si je t'aimais pas? C'est rassurant, hein. Vraiment, tu m'aimes? Oui, oui, oui. Tant que ça? Bah écoute, où c'est que j'irai, hein, d'abord? Non? Nous, les hommes, hein. Le travail que l'on exerce, la situation dans laquelle je suis, c'est pas ce qui devrait nous préoccuper. aussi longtemps que nous exerçons ce travail, aussi longtemps que nous sommes dans la situation où nous sommes, le verset 17 nous dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Ce n'est pas un accident. Nous ne sommes pas là par erreur. On est arrivé peut-être dans un pays, dans une situation en trichant. Et on se dit, mais je ne peux pas être béni là. Mais si je me repens, et si je demande pardon à Dieu, il peut m'utiliser pour changer cette situation. Pour pouvoir témoigner positivement dans ma situation. L'homme élabore des plans, mais c'est le Seigneur qui en dirige la réalisation. Le Proverbe 16, 9. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise, dit le Proverbe 19, verset 21. On jette le dé pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Proverbe 16, 33. Je relis. L'homme qui élabore les plans, mais le Seigneur en dirige la réalisation. Proverbe 16, verset 9. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Proverbe 19, 21. Et on jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. C'est Dieu qui vous a mis à l'endroit où vous êtes, mes amis. C'est Dieu qui nous a amenés là, pour être ensemble, et pour travailler ensemble, pour glorifier Dieu ensemble, pour honorer Dieu ensemble. Notre emploi, c'est notre ministère. C'est là où Dieu nous a fait de nous des missionnaires. Vous avez déjà réalisé ça ? Que vous êtes les envoyés de Dieu là, dans cet hôtel sans ascenseur d'une de nos sœurs, dans ces lieux qui sont peut-être tellement difficiles. Tu as fait de nous des missionnaires, des hommes, des femmes qui peuvent témoigner de Jésus-Christ. Des hommes, des femmes qui peuvent vivre la vie de Christ dans ces endroits. La façon dont nous accomplissons ce qui nous est demandé est tout aussi essentielle dans la vie que ce que nous faisons le dimanche matin. L'important, ce n'est pas d'aller à l'église tous les dimanches matins. Mais l'important, c'est quand je sors de cette église, quand je veux maintenant mettre ma vie en pratique, c'est que j'ai exactement le même cœur pour le faire. Oh, on a passé un temps tellement bien dimanche. Oh, la semaine, c'est horrible. Dieu, viens avec moi aujourd'hui et garde en moi la conscience de ta présence. Encourage mon cœur lorsque j'ai tendance à me décourager. Rends-moi humble lorsque j'ai tendance à me vanter. Dieu, donne-moi la grâce d'obéir à tes commandements. Qui, je le sais, sont résumés en ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier, c'est tu aimeras Dieu. Le deuxième, c'est ton prochain. Et notre prochain, mes amis, il est souvent au travail. Il est souvent dans le train. Il est souvent dans les lieux où je vais. Et le Seigneur me dit pas, aie de la haine pour lui. Mais il dit, aime-le. Comme moi, je t'aime. Alors, mes amis, on a vu trois aspects dans cet épître aux Corinthiens. Le premier, c'était notre famille. Le deuxième, c'était la part que nous prenions à l'évangile. S'il fallait être circoncis ou pas circoncis. Il a dit que la circoncision qu'il voulait, c'était celle de notre cœur. Et aujourd'hui, on voit que finalement, Dieu fait de chacun de nous des missionnaires. Des hommes et des femmes qui, là où nous sommes, avons la responsabilité de vivre Christ. D'être des témoins. Pas des hommes et des femmes qui râlent tout le temps. Pas des hommes et des femmes qui font grève tout le temps. qui se plaignent tout le temps. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée de joie, Seigneur, que ton règne vienne. Viens, Jésus, règne en moi. Voilà la demande. Seigneur, permets que dans mon couple, tu règnes. Seigneur, permets que dans ma vie chrétienne, tu règnes. Seigneur, permets que dans mon travail, tu règnes. Alors, si on lui laisse ses domaines de vie, mes amis, il va se passer des choses. Alors, on va découvrir une qualité de vie qui va être totalement différente. Alors, on va découvrir ce que Dieu est capable de faire avec nos vies quand on le laisse faire. On va rechanter ce chant ensemble. Mais on va faire quelque chose de parler. Je vais demander voilà, à la chorale de venir. Et ce matin, je vais faire un appel un peu particulier. Juste les écouter chanter. On va baisser nos têtes. Et peut-être ce matin, il y en a qui se disent « Mais c'est vrai que moi, je suis enchaîné encore. » C'est vrai que peut-être à mon travail, c'est vrai que peut-être dans ma famille, c'est vrai peut-être que dans ma vie chrétienne, mais il y a des chaînes qui me retiennent. Et ce matin, ce que Jésus dit, c'est « Tu es libre. » Tu es libre de ces chaînes. Tu n'es pas obligé de rester enchaîné. Par mon sacrifice, j'ai payé pour toi. Alors, on va baisser nos têtes, et pendant que nos amis vont chanter, il y a 15 jours, enfin pas 15 jours, mais il y a quelques semaines, deux sœurs s'étaient levées et avaient dit, par rapport au premier message, par rapport au foyer, qu'elles voulaient mettre leur vie en règle. Moi, ce matin, je veux faire un appel particulier. Si aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs, il y a des hommes et des femmes, des jeunes, même des jeunes, qui disent, ce matin, j'ai réalisé que j'étais libre de mes chaînes. Que Dieu voulait me donner la victoire dans le domaine de ma vie, dans le domaine de mon travail, dans le domaine de personnel. Alors, moi, je veux venir à Christ. Je veux venir debout et je veux proclamer cette victoire que Dieu met dans ma vie. Et je vous invite à vous lever et à venir devant, pour qu'on prie pour vous. Parce que c'est important, cette victoire, vous êtes la raison pour laquelle Jésus s'est donné. Et l'aboutissement de cette tâche, c'est de vous rendre libre. Vous n'êtes pas obligé d'être triste. Vous n'êtes pas obligé d'être désolé. Vous n'êtes pas obligé d'être affligé. Et vous n'avez pas à être orgueilleux. Alors si ce matin, cet appel vient dans vos cœurs, si vous réalisez ce matin, oui c'est vrai, dans les domaines de ma vie, je veux afficher la victoire en Jésus-Christ. Je veux vivre cette liberté en Christ. Moi je vous appelle à vous lever et à venir devant. Donc on va écouter nos amis chanter à nouveau ce chant. On incline nos têtes. Voilà, pendant ce chant. S'il y a d'autres ce matin qui veulent proclamer cette liberté,
proclamons sa grâce au gré de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie.
3-4.
Célébrons sa gloire, bannissons la peur.
Jésus. Jésus est vainqueur dans vos vies. Voilà, des amis ont franchi le pas. C'est difficile de déclarer la victoire de Christ. Mais vous savez que vous n'avez pas à la déclarer. Elle est déjà accomplie. Jésus a déjà vaincu nos ennemis. On l'a lu dans Genèse 14. Alors est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin qui aimerait afficher cette victoire en Christ? Oui. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin est un jour de joie, un jour de victoire. Parce que parmi nos frères et sœurs, Seigneur, tu as déclaré ta victoire, tu as confirmé dans leur vie que tu étais leur sauveur, leur Seigneur, et que tu les avais rendus libres, Seigneur. Oh, merci Seigneur, parce que c'est toi qui parles, parce que c'est ton esprit qui nous convainc. Merci Seigneur pour ces amis, que vraiment tu les gardes, que vraiment tu en fasses des lampes qui brillent là où ils sont, qu'ils ne se sentent pas avilis, qu'ils ne se sentent pas écrasés, mais qu'aucune pointe d'orgueil ne vienne dans leur vie. Ô Seigneur, sois béni pour ces amis. Bénis-les abondamment, Seigneur, que vraiment nous puissions les accompagner dans leur chemin de vie, qu'ils n'aient pas honte de vivre Christ. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. C'est une puissance, puissance de Dieu pour celui qui croit en lui. Ô Seigneur, bénis nos amis, bénis ton Église ici. Bénis l'œuvre que toi tu es en train de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut applaudir, hein, ô Seigneur. C'est le Seigneur qui fait ces choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est en train de transformer son Église, de lui donner la victoire, de faire réaliser ce qu'il a fait. C'est pas ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que lui est en train de faire. Mes amis, quelle joie d'être témoin de ce que Dieu fait dans les vies. Soyez bénis, mes amis. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien. C'est celui-là.